Soyez les bienvenus, bonjour à vous. Le journal Florence Paracuelos, bonjour à vous aussi.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Les réformes de l'éducation à la une ce matin, signée Jean-Michel Blanquer. Elles inquiètent les parents et les profs, appelés à la grève aujourd'hui avec l'ensemble des fonctionnaires. Et c'est l'homme qui pilote la réforme du bac qui sera votre invité dans 20 minutes,
Nicolas. Il s'agit de Pierre Mathiot. Oui, il est l'invité du grand entretien de la matinale. C'est lui qui avait pensé la réforme du bac et donc du lycée. Elle suscite des inquiétudes. On va dialoguer avec lui et avec vous. Vos questions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
Trop perçu en votre faveur, 150 euros en moyenne pour quelques millions de retraités en remboursement de la hausse de la CSG payée depuis janvier et qui a été annulée. Est-ce qu'il va coûter sa bonne santé à la Sécu cette année? Ils veulent changer les règles après les avoir édictées. Les députés En Marche nommés au poste stratégique de l'Assemblée voudrait bien rester alors qu'il devait rendre les clés à la mi-mandat. À la une également, le dark web touché par le FBI, un site majeur du net interlope démantelé. Des médecins qui dénoncent le fichage des gilets jaunes à l'hôpital. Une finale anglaise en Ligue des Champions, c'est Tottenham qui s'est qualifié en battant l'Ajax sur le fil hier soir. Encore un scénario surprenant. Et puis roulette et râteaux interdits, le mondial de babyfoot fait escale en Normandie.
France Inter.
Tous leurs syndicats seront là, les fonctionnaires, contre la réforme qui les concerne, examinée à partir de lundi à l'Assemblée. Dans les cortèges, on trouvera des infirmiers, des agents des impôts, des territoriaux et des professeurs aujourd'hui qui en ont plus spécifiquement après leur ministre, sa réforme du bac et sa loi sur l'école. Les regroupements par endroits des collèges et des lycées ne passent pas, comme le pré-recrutement d'élèves enseignants. Et les profs font tout pour mettre les parents de leur côté avec des réunions organisées cette semaine. Faustine Calmel a suivi celle de Montreuil en Seine-Saint-Denis.
Rachid est venu avec ses deux garçons de 6 et 10 ans, inquiets du niveau de leurs futurs enseignants.
Je suis effrayé par la prise de risque que fait le gouvernement actuellement en embauchant des gens qui ne connaissent pas les enjeux véritables de l'éducation et de la formation d'un enfant et de son émancipation.
Khadija, elle, a des jumeaux en maternelle et craint le regroupement des établissements.
Je suis issue de l'immigration. J'ai bénéficié de l'école de la République dans toute sa splendeur, de l'égalité. Et je voulais que ça continue pour mes enfants. Et j'étais un peu choquée qu'on puisse enlever les directeurs, les regrouper dans un collège.
Khadija s'inquiète de ne plus avoir d'interlocuteurs. Mais c'est aussi la réforme du lycée qui angoisse Alexandra avec la fin des filières L, S et ES.
On enlève l'essence de ce tronc commun. C'est il faut être le meilleur dans certaines matières et on a intérêt de savoir très tôt ce qu'on veut faire pour s'orienter et pas se planter.
Certains parents seront dans les cortèges, Guillaume avec son fils de 3 ans.
Après ça fait des expériences pour l'enfant qui sait ce que c'est qu'une manifestation, donc c'est aussi une ouverture sur la ville quoi. On peut être dans la semaine, pas enfermé dans une salle d'école, on peut voir son enseignante ou son enseignant dans la rue.
Et à l'inverse, pour les enseignants, il faut voir des parents dans la rue aujourd'hui. Désormais, si l'on veut faire reculer le gouvernement, il faut remporter la bataille de l'opinion, confie l'un d'eux.
Le projet pour une école de la confiance sera largement remanié par la droite au Sénat la semaine prochaine, notamment dans sa dimension regroupement des écoles et des collèges. Quant à la mobilisation du jour, Jean-Michel Blanquer parle de 15% de grévistes chez les profs. Le SNUIPP en a compté autour de 30%.
Il est 8h04, Florence, quand l'administration vous rend de l'argent.
150 euros en moyenne, remboursés à partir d'aujourd'hui à 3 700 000 retraités qui gagnent moins de 2 000 euros par mois. Il s'agit de la hausse de la CSG payée depuis le début de l'année, alors qu'Emmanuel Macron l'a annulée au mois de décembre. Ça faisait partie de la première vague d'annonces de la crise des gilets jaunes. Le temps de se mettre au diapason, la caisse d'assurance vieillesse va donc rendre 4 mois de trop perçu. Et l'annulation, dans son ensemble, coûtera 4,5 milliards d'euros, Laurent Kramer, qui vont faire basculer les comptes de la Sécu dans le rouge cette année.
2019 devait initialement rester comme l'année du retour à l'équilibre financier pour la sécurité sociale. Après 18 années de déficit, les comptes de la Sécu affichaient en début d'exercice 600 millions d'euros d'excédent budgétaire, performance vite écrasée par l'addition de nouvelles mesures sur le pouvoir d'achat, la diminution de la CSG pour une partie des retraités et l'exonération de charges sur les heures supplémentaires feront donc replonger à 3,6 milliards de déficit les comptes de la Sécu. sécurité sociale cette année, auquel pourrait s'ajouter une révision à la baisse de la croissance française, avec moins de recettes pour les caisses de l'assurance maladie, moins de cotisations que prévu par le gouvernement. Les comptes de la Sécu resteront donc dans le rouge, sauf à décider de nouvelles mesures d'économie sur les dépenses de santé dès 2020.
C'est un fichier nominatif dans les hôpitaux dans lequel on a pu lire qu'un tel avait été blessé par un flashball, qu'un autre avait été blessé par un coup de matraque pendant les manifestations des Gilets jaunes. Précisions inappropriées, a reconnu l'assistance publique qui a dit vouloir corriger cette pratique. Mais les médecins ne sont pas rassurés. Ils sont une centaine à signer une tribune contre ce qu'ils nomment le fichage des Gilets jaunes, dont ils demandent l'arrêt immédiat. Le professeur André Grimaldi de la Pitié-Salpêtrière en fait partie.
Principe éthique, hein, les médecins prêtent serment de respecter absolument la confidentialité vis-à-vis de quiconque, des assureurs, de l'État, de la police, même si l'intention des personnes qui ont décidé n'était pas malveillante, il est urgent de dire non, pas question de ça. Parce que après, on s'habitue à ça. Il ne faut pas s'habituer à des choses inacceptables.
Parce que les informations permettraient effectivement d'identifier les personnes et vous sortiriez du secret médical.
Il n'est pas possible qu'on puisse, à partir de renseignements sur les personnes, leur physique, leurs habits, leurs blessures, pouvoir identifier des personnes. Alors même si c'est une hypothèse, il faudrait qu'il y ait une enquête, etc. Oui, c'est pas possible. Le médecin doit absolument respecter la confidentialité. Et donc la communauté médicale, toute opinion politique confondue, dit pas ça.
Voilà, le professeur Grimaldi avec Daniel Messager, la ministre de la Santé Agnès Buzyn assure que ce fichier n'est pas accessible au ministère de l'Intérieur.
Il est 8h07, il voulait tout changer et puis finalement non.
Les députés de La République En Marche, nommés à des postes clés de l'Assemblée, avaient promis de n'y rester qu'une moitié de mandat. Seulement voilà, l'échéance c'est dans 6 mois et ils n'ont plus envie de partir. Karine Bécard, une réunion du groupe La République En Marche est donc convoquée aujourd'hui pour voir ce qu'il est possible de faire.
Tout le monde se souvient de cette règle, mais au sein de la majorité, plus personne n'a envie de l'appliquer. En fait, les députés de La République En Marche faisaient leur premier pas dans les couloirs de l'Assemblée quand ils ont eu l'idée de proposer de renouveler à mi-parcours tous les postes à responsabilité. Mieux, ils ont même décidé que les sortants n'auraient pas le droit de se représenter. Le pouvoir devait tourner, il ne fallait surtout pas s'y accrocher. Seulement, 2 ans après avoir été élu député, le Nouveau Monde a un petit peu changé. En tout cas, ceux qui ont accédé, comme Barbara Pompili par exemple, à des postes clés, elle préside l'une des 8 commissions à l'Assemblée, ils n'ont plus franchement envie de les abandonner. Voilà pourquoi Gilles Legendre, qui lui aussi aimerait bien rester le patron du groupe des députés de la majorité, devrait proposer ce matin à ses troupes de modifier tout simplement le règlement. Serait maintenu le principe qu'il faut renouveler, mais tout ce qu'il souhaite pourrait finalement se représenter, donc y retourner. En somme, c'est fou comme on s'habitue vite aux règles de la vieille politique.
Les nouvelles sanctions américaines contre l'Iran sont tombées après le renoncement hier à certains de ses engagements nucléaires. Donald Trump interdit désormais l'achat des métaux iraniens qui représentent 10% des exportations du pays. Trump, dont le fils aîné se retrouve convoqué par la commission du renseignement du Sénat pour s'expliquer sur ses contacts avec la Russie. C'est toujours la suite du rapport Mueller. Au Venezuela, Juan Guaido dénonce l'arrestation de son bras droit. Le régime a enlevé le premier vice-président de l'Assemblée nationale, a tweeté l'opposant à Maduro. Edgar Zambrano a lui-même raconté, pendant son arrestation, comment les services de renseignement l'encerclaient et comment ils avaient fait appel à une grue pour embarquer la voiture de laquelle il refusait de sortir.
Il est 8h09 au Soudan. Omar El-Béchir est tombé. Mais Florence, la mobilisation continue.
Pour obtenir du Conseil militaire de transition le transfert du pouvoir aux civils, et parmi les milliers de Soudanais qui campent devant le QG de l'armée depuis plus d'un mois, nombreux sont ceux qui viennent du Darfour, région ravagée par un conflit qui a fait plus de 300 000 morts et près de 2,5 millions de déplacés. L'ancien président déchu pour cela est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, accusé de génocide et de crimes contre l'humanité. Les Darfouriens de Khartoum réclament donc que justice soit faite, au micro de Martin Roux.
Face au quartier général de l'armée, sur cette place où le peuple révolutionnaire se rencontre, les Darfouriens se relaient pour faire entendre leur souffrance. Un acte inimaginable il y a encore quelques semaines. Dans la foule, Naguib Abdallah Hamed attend son tour.
I lost my father.
J'ai perdu mon père, mes deux sœurs, mon oncle et tant d'autres que je ne peux même pas les compter. D'autres encore ont fui vers le Tchad. Et je ne peux pas te dire quelle peine j'ai endurée et à quel point je hais le régime de Omar el-Béchir.
À l'ombre d'une tente, une cinquantaine d'entre eux débattent d'une stratégie pour porter leurs revendications. Baptisé le cortège des marginaux, ils réclament que tous les responsables soient traduits devant la Cour pénale internationale. Walid Abdul Hassan est leur porte-parole.
Dans le monde entier, tout le monde connaît le cas du Darfour, le génocide ou encore les violences sexuelles. Tous les coupables, sans exception, doivent être traduits devant la justice. Et cela, car nous parlons aujourd'hui de reconstruire un nouveau Soudan qui réunira tous les Soudanais.
Sur le sit-in, paix, égalité et liberté clament ensemble les manifestants. Mais ces mots d'ordre ne pourront se réaliser sans répondre aux espoirs du Darfour. Khartoum, Martin Roux, France Inter.
Denver dit oui aux champignons hallucinogènes, première ville des États-Unis à dépénaliser leur consommation par référendum. On en trouve de ces champignons sur le dark web, comme de la cocaïne ou des armes, espace en dehors de tout contrôle, auquel le FBI vient de porter un coup sévère. Un site a été démantelé, véritable porte d'accès vers ce monde caché du net. L'un de ses administrateurs a été arrêté à Paris. Explication signée Sarah Guibaud.
Si vous essayez de retrouver ce site, vous verrez en page d'accueil le message saisi par le FBI avec les emblèmes des polices israéliennes, allemandes, britanniques, brésiliennes et de l'office européen Europol qui ont participé à l'opération. Deep Dot Web était un grand centre d'information avec des liens pour se fournir notamment en drogue ou médicaments, comme l'antidouleur fentanyl qui fait des ravages en Amérique du Nord. Le site fournissait aussi des tutoriels. Pour le FBI, c'était le premier endroit où aller pour les novices du dark web, cet internet où s'échangent aussi des numéros volés de cartes de crédit ou des logiciels malveillants pour rançonner entreprises et particuliers. Les deux principaux suspects en auraient été les administrateurs depuis 2013. Ils sont israéliens. L'un d'eux a été arrêté à Paris lundi et doit faire l'objet d'une procédure d'extradition. La justice américaine les accuse d'avoir touché des millions de dollars de commissions sur des transactions illégales. La semaine dernière, une autre opération internationale avait démantelé en Allemagne un grand centre commercial du dark web. Décidément dans le collimateur des polices du monde.
L'Europe progresse, elle émet moins de CO2. Ses émissions ont baissé de 2,5% l'an dernier grâce aux énergies renouvelables de plus en plus utilisées pour produire de l'électricité. Voilà de quoi autosatisfaire les chefs d'État de l'Union réunis aujourd'hui en Roumanie et donner de l'espoir à ces villes qui ont décidé de donner l'exemple en s'engageant sur la neutralité carbone d'ici 2050. Elles sont 200 à faire ce pari en Europe. La Rochelle s'est même donné 10 ans de moins pour y arriver, Célia Quiret.
Aujourd'hui, la ville de La Rochelle émet 2 millions de tonnes de CO2 chaque année. Pour comparer, ce sont 25 millions de tonnes de carbone qui sont disséminées dans les airs à Paris et quasiment la moitié proviennent des transports. Face à cela, les solutions existent. Vélos, bateaux électriques et solaires, davantage de bus propres, voitures électriques en libre service. Mais pour parvenir à la neutralité totale en 2040, le maire Jean-François Fontaine devra redoubler d'efforts. Certains marais peuvent en effet absorber du CO2 pour compenser certaines émissions, mais ça ne suffira pas.
Par exemple, il faudra qu'on agisse aussi sur supprimer toutes les chaudières à fioul de notre territoire. À travers l'urbanisme, c'est tous les déplacements domicile-travail. Chaque matin, c'est des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre leur voiture. Donc c'est de faire plus de logements proches de l'endroit où il y a de l'emploi, c'est-à-dire la partie centrale de notre ville, et puis aussi amener de l'emploi en milieu rural, dans les territoires où des gens ont choisi de vivre.
En Europe, d'autres villes comme Milan, Séville ou Stockholm sont engagées dans la même démarche, mais on est loin de la neutralité. L'an passé, les pays de l'Union ont réduit leurs émissions de 2,5% seulement. Elles ont diminué dans la plupart des États membres, mais elles ont augmenté en Pologne, à Malte ou dans les pays baltes. L'Allemagne, avec 22% des émissions de CO2 au niveau européen, reste d'ailleurs le plus mauvais élève de l'Union.
Célia Quiret, dans la série Retournement de situation, l'édition 2019 de la Ligue des Champions restera dans les annales après la remontada de Liverpool face au Barça avant-hier. Voici la victoire in extremis de Tottenham qui va droit en finale grâce à un triplé de Lucas Moura hier soir sur la pelouse de l'Ajax d'Amsterdam. 3-2 et un but de la victoire marqué à la 96e minute par le Brésilien qui réalise son rêve.
Depuis que j'étais petit, j'avais le rêve de jouer la Champions League. Et maintenant, j'ai l'opportunité de jouer la finale. Je suis très, très content. Je suis très fier de mon équipe. C'était le match de notre vie. Et c'est ça qu'on a fait. On a bien joué. On a réussi à mettre notre intensité. On était agressif. J'ai toujours cru que ce moment allait arriver. Ah, là, il faut profiter. Il faut profiter. Et le foot, c'est incroyable. Le foot, c'est incroyable. Il donne des choses qu'il n'y a que le foot qui peut donner.
Voilà, Lucas Moura au micro de Jean-Pierre Blimaud. La finale le 1er juin à Madrid sera donc toute britannique. Tottenham contre Liverpool. Nicolas, enfin, voilà qui se joue aussi avec un ballon et des joueurs de foot, mais en tout petit format et relié par des barres métalliques. Le mondial de babyfoot fait escale en France pour 4 jours en Normandie. 450 joueurs attendus à Mondeville qui prennent Olivier Duc, leur discipline très au sérieux.
Déjà, le commun des mortels joue au baby-foot, mais sportivement, les organisateurs et les joueurs préfèrent parler de football de table.
C'est l'appellation un peu sportive, c'est un peu à la manière du ping-pong et le tennis de table.
En compétition, le football de table se joue en 1 contre 1, à 2 contre 2 ou par équipe. Romain Droit, président du Mondeville Football de Table, organisateur de l'épreuve.
Tous les matchs en officiel se jouent au meilleur des 5 manches, et les manches se jouent en 5 points. On est sur une moyenne de 30 à 40 minutes par match, pour une heure, pour les très hauts niveaux.
On est loin des parties jouées dans les troquets. En compétition, il faut être plutôt affûté.
Il faut de l'endurance. C'est un jeu qui est énormément basé sur la réflexion. Et puis après, c'est de la répétition de gestes. Vous travaillez le revers, le coup droit au tennis, vous travaillez votre passage au milieu, vous travaillez votre shoot. C'est la même chose. C'est de la répétition, répétition, répétition.
Les 80 baby-foot installés à Mondeville seront sans poignées, car chaque joueur apporte sa paire de poignées personnalisées.
On a des poignées plates qu'on retrouve surtout au sud de la France. On a les poignées rondes qu'on retrouve pas mal dans le nord. Vous avez des poignées plus plates qui sont destinées à plus de jeux techniquement. Après, c'est adapté, on ajoute des grippes, on comble les trous, on refait la poignée à notre main.
Au bout des épreuves, un titre de champion du monde tout à fait sérieux.
Ça fait souvent sourire. Moi, pour avoir été vice-champion du monde junior en 2012, quand vous l'annoncez, on vous prend un peu au sourire et quand les gens viennent voir, les gens réalisent un peu plus.
Et pour ceux qui ne pourront pas se rendre à Mondeville, la compétition sera filmée et retransmise sur Internet.
Il paraît que vous prenez le gagnant, Nicolas.
Oui, sans problème. Ouais. Mais vous m'avez l'air très bonne au baby-foot.
Le problème, c'est que je fais des roulettes et que c'est interdit.
Merci Florence Paracuelos.